ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille.
Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Epithem, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product.
Encore une fois, merci d'être venu. Donc pourquoi Blockchain and Friends? Comme c'est arrivé en fait du fait qu'on avait dans notre entourage plein d'amis qui avaient des projets blockchain, donc des startups et aussi des plus grands comptes. Donc on est ravis de vous accueillir. Nous, on est dans l'exploration depuis très longtemps, parce qu'on existe depuis 2004. On a déjà vu plusieurs vagues passer, la vague Internet, la vague des réseaux sociaux. Et la blockchain, on le voit arriver depuis 2008-2009. On l'a vécu avec les monnaies complémentaires, avec les Twallers et les premières banques un peu open source où on essayait de disrupter les banques. Donc c'était en 2008-2009. Et on a vu arriver le Bitcoin, mais vraiment en se disant, mais c'est génial, c'est tout ce qui manque, mais ça prendra 10 ans pour sortir. Eh bien, c'est le cas. Donc c'est pas Bitcoin qui sort, mais c'est la technologie issue du Bitcoin qui nous réunit aujourd'hui, car aujourd'hui, la blockchain, et on pourrait dire, n'est plus en exploration, mais elle est vraiment en production chez les petites, moyennes et grandes entreprises. Donc, je vais passer le micro à Thibaut.
Bonjour à tous. Donc, on va attaquer pour vous rappeler un peu le format. Le format, c'est 30 minutes de pitch, de présentation, et après, il y aura 10 minutes de questions-réponses par intervenant. Donc, on a la chance d'accueillir Fabien Ducoudray, qui est business director chez Daniel Capblog et qui accompagne aussi d'autres entreprises innovantes. Il a découvert le monde de la blockchain en 2016, d'abord plutôt du côté spéculatif du Bitcoin et de l'Ether. Puis en 2017, il a vraiment décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et d'en apprendre davantage sur la technologie en joignant Daniel. Aujourd'hui, on peut dire que c'est quasiment 2 ans de réflexion avec un projet, vous allez voir, d'intelligence artificielle et qui permet très concrètement d'aborder, non pas d'un point de vue acculturation, mais là, on va être très pragmatique. Et donc, nous avons la chance de t'écouter. Eh bien, c'est à toi.
Déjà, bonjour à tous. Je vais essayer de rattraper un peu de temps perdu en vous présentant assez rapidement, mais quand même concrètement, ce que c'est Daniel. Donc Daniel, c'est comment traiter la diffusion des fausses informations sur les marchés financiers émergents. Et quand je dis marchés financiers émergents, on s'est vraiment concentré sur, dans un premier temps, la blockchain et les crypto-monnaies, qui est quand même un bac à sable assez génial pour développer pas mal d'outils. Et donc concrètement, le constat de départ, c'était la masse d'informations quotidiennes. Aujourd'hui, les chiffres sont presque à jour, mais vous avez plus 1 million de tweets, 500 articles de journaux, des groupes de discussion Facebook, Telegram, les forums, les exchanges. Vous avez une multitude de places où les gens discutent, échangent des informations, et c'est vraiment compliqué de tout suivre, de tout lire, et de surtout faire le tri du vrai du faux. Et donc, il y a une fiabilité qui est énormément discutable. Les derniers chiffres disaient qu'il y avait à peu près 80% de fausses informations sur ce secteur. Et donc le but de Daniel et le problème de départ, c'était vraiment de comment on récupère toutes ces informations, comment on les trie, quel est le modèle pour la fake. En gros, c'était vraiment combattre la fake news. Et donc, parti de ce constat-là, on a commencé à rencontrer beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de personnes qui étaient soit amatrices comme le dit Anna, ou soit investisseur comme Marc. C'est des gens qui avaient besoin soit de s'informer, soit de s'éduquer, soit d'avoir la bonne information au bon moment pour pouvoir investir correctement. Et donc de tout ça est né Daniel finalement. Donc le secteur de la blockchain, c'est un secteur qui est en pleine expansion. On peut le voir, vous avez la courbe des utilisateurs blockchain et la courbe des utilisateurs d'Internet. Donc on voit que c'est quand même pas mal lié et que si on suit la même courbe qu'Internet, on risque d'avoir beaucoup de monde dans le monde de la crypto et de la blockchain dans les prochaines années. Donc c'est vraiment un secteur dans lequel il y a énormément à faire. Comme je disais, le marché est volatile et émotionnel, et le moindre tweet, la moindre information fausse peut manipuler un marché et un cours de monnaie assez énorme, de façon assez conséquente. Donc vous le voyez avec la Corée du Sud qui parle de bannir le trading et le marché s'effondre. Vous avez encore aujourd'hui, enfin cette semaine, la Chine qui annonce qu'ils vont, mettre des nouvelles lois. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est assez important, ça impacte fortement le marché. Et donc c'est tout ça sur lesquels Daniel voulait, voulait travailler, voulait se pencher. C'était vraiment aller chercher le vrai du faux et la bonne information au bon moment. Donc la fake news, c'est vraiment le cœur de cible de Nani, c'est vraiment ce qu'on combat tous les jours à travers différents modèles et algorithmes. Là, vous le voyez, on annonce que Vitalik Buterin est mort pour la énième fois dans un crash de voiture, alors que c'est toujours pas vrai. Et bizarrement, le marché chute de 4 milliards. Et c'est ça, j'ai pas envie de dire quotidiennement, mais très souvent, il y en a quelques-unes que vous voyez passer, qu'on ne voit pas passer, qui pourtant sont fausses et qui n'ont aucun impact sur le marché. Et il y en a quelques-unes où là, le marché est fortement impacté. Généralement, c'est pas très joli à voir. Donc nous, Daniel, ça aura bientôt 3 ans l'année prochaine. Donc c'est parti du constat que je vous expliquais juste avant. Donc on a fait brièvement, mais ça, je pourrais en parler des heures, on a fait un modèle de levée de fonds qui est une ICO. Donc pour ceux qui ne sont pas du tout ouverts avec ce principe, en fait, c'est un espèce de crowdfunding où vous vendez une espèce de monnaie numérique où vous vendez des pré-licences et ça vous permet de financer comme un crowdfunding votre idée. Donc on a travaillé 10 mois sur l'IA. On a récolté 500 sources de... On a 500 journaux aujourd'hui qu'on scrute pour récupérer les informations. En tout, on a 3000 sources d'informations. Donc vous avez les réseaux sociaux, les actualités, les forums. Vraiment beaucoup d'endroits où soit les gens échangent, soit où on publie de l'information, ce qui est logique. Et donc par jour, on récolte et on trie 2 millions d'informations. Et on analyse des données. On récupère aussi les émotions, enfin on travaille sur les émotions, donc on est capable de savoir dans quel sens va le marché, si on peut rester poli. Et on arrive à détecter les tendances, un peu comme le fait Google Trends et des choses comme ça. Et on a développé aussi un système de prédiction qu'on a pour l'instant plugué que sur le cours du Bitcoin. Donc la valeur ajoutée chez nous, et sur Daniel surtout, c'est comment on récupère les sentiments du marché. Donc c'est assez complexe et on update les algorithmes assez souvent. La fake news, c'est vraiment le cœur de la guerre et comment on choisit quel média on va plus valoriser qu'un autre, quel auteur dit vrai, quel auteur dit faux. Désolé. La plupart des news sont sponsorisées, vous le voyez bien sur tous les médias crypto. Généralement, tout le monde paye pour avoir sa news en tête de gondole. Et c'est un énorme marché. Et après, il reste les signaux faibles. Et nous, ce qu'on dit dans signaux faibles, parce que c'est assez large, c'est comment, à quelle vitesse, par exemple, une fake news... Il y a plusieurs façons de la détecter et l'une des façons, c'est la vitesse de propagation. Plus ça se propage vite, pire c'est, comme si on peut dire. Et c'est pareil, on essaye de faire confiance à la presse généraliste, même s'il ne le faut pas. Mais la plupart du temps, quand une information est reprise par des gros journaux, on peut dire que déjà, elle sort du score fake news et elle entre dans un niveau où elle est un peu moins fake. Mais ce n'est pas toujours vrai. Donc les problématiques, je vais revenir, c'était comment détecter les fausses informations sur Internet, comprendre l'impact des informations sur le marché financier. Donc pour ça, on a bossé sur le big data pour récolter l'information en temps réel sur un peu plus de 3000 sources de données qui évoluent. Il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent. C'est vraiment un vivier assez sympathique dans lequel travailler. Le natural language processing, c'était pour extraire les 2 millions d'infos collectées et retirer les mots-clés et pouvoir vous rendre à la fin une news qui soit plus vraie que fausse. L'IA, c'était pour analyser les sources d'informations. Et après, on travaille, on a 3 modèles différents, mais l'API, c'était vraiment pour filtrer les informations les plus pertinentes et les redistribuer. Donc voilà à quoi ressemble Daniel. Donc en fait, Daniel, c'est soit une application mobile, soit une application desktop, et après vous l'avez aussi en version API, où vous avez finalement un newsfeed, un flux d'informations où vous savez que vous allez retrouver la plupart des news importantes et impactantes du marché sans avoir à s'amuser à trier le vrai du faux. Donc là, vous pouvez le voir. Donc à gauche, vous avez votre newsfeed comme il se présente quand vous ouvrez le téléphone. Ensuite, on a ajouté un suivi du marché, comme un peu tout le monde fait. Et à droite, vous avez l'analyse des sentiments sur les 100 premières crypto-monnaies du top 100 sur CoinMarketCap. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu complet du marché et de pouvoir suivre les projets que vous suivez soit en fan du projet, soit en investisseur, soit juste pour apprendre comme la plupart des gens qu'est-ce que c'est que telle ou telle chose. La plateforme web va plutôt s'adresser pour les pros, donc là c'est vraiment un outil beaucoup plus complet. On va pousser l'analyse vraiment beaucoup plus loin. On va donner beaucoup plus de signaux, beaucoup plus de chiffres, de statistiques. Et c'est pour en fait on a tourné cette version pour tous les. Quand on dit professionnel, on s'entend c'est par exemple, quelqu'un qui achète du Bitcoin pour la première fois, ça va être pas un professionnel, mais quelqu'un comme moi ou comme certaines personnes dans la salle qui en achètent assez souvent vont être considérés comme professionnels parce que finalement, ils vont acheter et vendre des cryptos un peu tous les jours ou tous les trois jours. Et donc, on a développé une plateforme qui leur permet d'être beaucoup plus ergonomique et d'avoir un flot d'informations et un flux d'informations qui soit beaucoup plus important et qui soit plus intéressant surtout pour eux. En quelques stats sur notre application, donc la pertinence, 20 minutes. En une vingtaine de minutes, on est capable de détecter si une news est vraie ou fausse et si elle aura un impact sur le marché. Le nombre de fake news quotidiennes, c'est à peu près, on le voit, c'est à peu près 200. Donc vous voyez que s'il faut en lire 202 pour en avoir 2 de vraies et 200 de fausses, moi j'ai autre chose à faire de la journée. Donc c'est un outil qui m'aide quand même pas mal à gagner du temps. Et après, j'ai mis le score de prédiction. On est aux alentours de 94% de fiabilité sur le score de prédiction du prix. Alors, les cas d'usage sont divers et variés. Donc, vous le voyez avec Coinbase, je ne vais pas dire qu'on a su avant que le Stellar allait être ajouté, mais on a eu quelques signaux qui ont prouvé et qui ont montré qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait d'assez impressionnant chez Coinbase. Il y a toutes les discussions sur les groupes privés qui nous aident à en savoir quand même un peu plus sur ce qu'il se passe. On a détecté l'information peu de temps après, et comme vous le voyez, suite à l'ajout, il y a eu plus de 30%. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on prédit l'avenir, mais tout ce qu'on a mis en place nous aide vraiment à comprendre le marché et à ne pas se tromper, mais on voit à peu près l'idée. Bon, rapidement sur nos cibles, donc vous avez le particulier B2B, donc c'est un marché qui est en constante augmentation, on le voit plus de 100% en un an sur l'année 2019. On estime à 200 millions le nombre d'utilisateurs en 2024. C'est la partie vraiment application mobile qu'on pousse à ces gens-là. C'est vraiment quelque chose d'intuitif et de facile que vous avez dans la poche. Vous prenez le métro pendant 10 minutes, vous avez fait le tour un peu de l'actualité. Et après, on a vraiment le côté B2B avec la version pro et les API, où là, on a vraiment trois cœurs de cible. On a les traders pro, comme j'expliquais juste avant. On a les exchanges à qui on fournit de la data pour qu'ils puissent implémenter. Il y a beaucoup d'exchanges qui aiment bien avoir un flux de news qui soit intéressant, et donc on leur fournit à travers une API ce flux de news. Et après, il y en a quelques-uns, comme on travaille avec un exchange belge qui récupère en plus des news, les sentiments, et qui propose vraiment à ses utilisateurs un panel complet d'informations, de statistiques et de nombres sur la monnaie ou sur le projet sur lequel ils trade. Et après, la dernière et la plus dure, c'est les banques et les institutions financières à qui on propose de faire plutôt de la veille technologique et de permettre à tous les employés d'avoir un outil où déjà ils peuvent se former, ils peuvent apprendre, suivre l'actualité et peut-être que dans 20 ans, ils pourront conseiller les gens sur quelle crypto acheter. Rapidement, je vais vous repasser notre histoire. On a fait une ICO en janvier 2018, donc cette petite levée de fonds qui nous a permis de développer Danil correctement. Passé un an de R&D, on a été incubé à Station F dans l'accélérateur Chain Accelerator, qui est un accélérateur de start-up vraiment orienté crypto. On a travaillé avec IBM en fait au lancement de Danil. On travaillait sur le côté sentiment avec IBM Watson. Et donc, ils nous ont suivis sur pas mal de phases du projet pour comprendre et évoluer nos modèles d'algorithmes sur les sentiments. Et on a travaillé aussi avec OVH. Ensuite, on a été incubé chez Wisprint, qui est un accélérateur dans le sud de la France. Et on a lancé le produit juste avant le CES. On a lancé le produit en novembre 2018. Et on a fait le CES de Las Vegas. On a été retenu lauréat sur les sociétés blockchain au CES de Las Vegas en janvier 2019. Et après, voilà, je vous passe un peu notre petite vie. On sort juste du programme d'accélération de Facebook. Donc Facebook, ils ont un accélérateur qui s'appelle Startup Garage. Et en fait, il y a des verticales qui permettent d'incuber des sociétés qui les intéressent, eux, forcément, sur des domaines particuliers. Et nous, on avait été incubés en tant qu'IA qui lutte contre la fake news, pour faire simple. Et bon, ça, on s'en fiche, mais c'est tous nos partenaires et tous les gens qui nous ont accueillis et qui nous soutiennent quotidiennement. Ça, c'est l'équipe, donc vous voyez la belle équipe qu'on est. Donc il y a Joseph qui a cofondé la boîte avec moi-même. Et après, on a récupéré Harold et Nicolas. Donc Nicolas qui est notre tête d'IA. Et Harold qui est notre directeur de communication. Nos conseillers, donc vous retrouvez Vidal qui pitchera à BTU Protocol un peu plus tard dans la journée. Vous avez Alexandre Lacour, Jean-Hugues Loret et Jean-Michel Billot qui sont des personnes assez importantes dans certains domaines et qui nous ont très très bien aidés jusque-là. Ben voilà, écoutez, j'ai fait le tour de Daniel assez rapidement. Je pense que j'ai rattrapé quasiment tout le retard. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, ben, ça m'a fait plaisir de vous pitcher cette petite société.
Ouais. J'ai la responsabilité de transmettre le micro pour celles et ceux qui souhaitent poser des questions, rentrer un peu plus dans le détail. Tu vas inaugurer les questions. Hop là.
Ah oui, le sans fil, ça marche.
Le sans fil, ça marche pas mal, mais effectivement, on a fait le fil à l'ancienne.
Bonjour, merci beaucoup de votre présentation. En fait, j'ai bien vu vos slides et vous avez dit que vous vous adressez aussi aux traders. Et moi, l'idée sous-jacente auquel j'ai pensé, c'est lutter contre les biais. Est-ce que votre entreprise, avec la lutte contre les fake news, peut aider les traders à lutter contre le biais cognitif qu'on connaît en finance? C'est-à-dire, voilà. Est-ce que ça peut être utilisé pour ça ou pas?
Quand on dit, je ne vois pas bien les biais.
On a les biais lorsque, par exemple, on voit une action et on se fait toujours avoir. On a toujours un biais de non-confiance dans cette action. Donc il y avait des biais qui sont plus ou moins connus en finance, et tout pour les traders.
J'avoue que la question est bonne. On ne s'y est pas penché. Après, il est vrai que nous, Dani, la crypto et la blockchain, c'était vraiment le bac à sable sur lequel on voulait développer et essayer, parce qu'il y a énormément de problèmes et de choses à résoudre, et on voulait justement derrière s'attaquer au marché de la finance et la finance traditionnelle. Répondre au biais, je ne pourrais pas vous dire oui, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut se pencher effectivement dans les années à venir.
D'accord, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Merci. Jérémy, je suis le fondateur de Alira, l'école blockchain. Ma question, c'est, vous avez annoncé un taux de prédiction, c'est ça que j'ai compris, sur Bitcoin à 94%. Est-ce que vous pouvez détailler le calcul qui vous permet d'arriver à ce chiffre? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre, en fait?
C'est une très bonne question. Je vous avoue que, n'étant pas du tout technique, je ne pourrais pas vous détailler exactement ce qu'il y a derrière ce chiffre. Mais de ce qu'on m'a expliqué, en fait, la prédiction donne une fourchette de prix, et en fait, on arrive toujours à être dans cette fourchette de prix. Donc, par exemple, enfin, je résume vraiment, je suis pas le mieux placé pour y répondre. Mais admettons, on va donner un prix entre 13 000 et 13 500. Si on est dans cette fourchette-là, on considère la réussite, en gros. Donc, on n'est pas au centime ou à l'euro près, mais on est dans des fourchettes de prix grandissantes ou pas, et c'est dans ce calcul rentre en compte là-dedans. Non, du tout. Alors là, je peux vous donner le contact de Joseph qui répondra à toutes les questions avec plaisir sur le côté technique.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Ah!
Je suis Yves Guillot, je suis consultant à mon compte et je tente de me lancer sur le sujet. Ma question, c'était en quoi la blockchain vous a apporté techniquement la plus-value? Enfin, y avait-il justement un enjeu technologique pour utiliser la blockchain concernant la détection des fake news, plus que notre technologie?
Si elle nous a apporté une plus-value, non, pas spécialement. En fait, c'est que on était plusieurs à. C'est parti d'un constat assez particulier. C'est que moi, je faisais beaucoup avant Daniel, donc on remonte à plus de 3 ans, je faisais beaucoup d'achats et de reventes de crypto-monnaies. Et en fait, à côté de ça, j'avais un job d'ingé. Et concilier les deux, c'était assez compliqué. Et quand j'ai rencontré Joseph, il avait le même problème. Et on s'était dit pourquoi on ne développerait pas une IA qui, enfin, comme lui était travaillait chez IBM et faisait ce genre de produit. On s'est dit pourquoi on n'essayerait pas de nous créer un outil qui nous déjà nous aide quotidiennement dans cette recherche d'information et ce tri de l'information. Et donc on a sauté sur le marché de la blockchain des cryptos parce qu'on y avait un intérêt personnel à développer un produit sur ce secteur-là. Et comme je le disais juste avant. Nous, on a pour vocation de verticaliser Danil aux services financiers à plusieurs secteurs qui ont des problèmes pas forcément équivalents, mais qui aussi sont assez regardants sur la news et sa qualité et sur pas mal de choses. Donc, pourquoi la blockchain, c'était vraiment un aspect personnel. Et quand on a commencé à vouloir développer le projet pour nous, on a échangé avec plusieurs personnes autour de nous et on a vu que beaucoup de personnes étaient intéressées pour avoir rien que le fait de collecter la data et de la trier, de donner juste des informations qui soient un peu plus vraies que tout ce qu'on peut lire sur Internet. Et c'est de là qu'on s'est dit, bon, on va essayer de... C'était la grande mode des ICO et on a voulu tout empaqueter et tout faire d'un coup.
Donc, juste pour que je comprenne bien, Daniel, une IA qui analyse les sources d'informations, qui a un certain nombre de services. Mais au cœur technique du produit, il n'y a pas d'utilisation de la blockchain. La blockchain, c'est le sujet.
Exactement. D'accord. Il n'y a aucune utilisation de blockchain.
D'accord, ok, merci.
Arrêtez-moi hein, s'il y a trop de questions. Non, okay. Vous avez fait une ICO du coup en 2017, c'est ça ? Ou 18
ouais, fin 2017, début 2018.
Et du coup, alors, le jeton que vous avez vendu, il est à quel usage au sein de votre solution ?
C'était une prévente de licence. Le jeton donne accès au service directement.
J'ai une petite dernière question, Midi, donc je suis consultant. Je vous vois toujours incubé, vous êtes toujours à la station F. Est-ce que l'entreprise Danil commence à vendre ses produits ou elle est encore en gestation ?
On a été incubé plusieurs fois, là on a été incubé accéléré et là on n'est plus que incubé au BIC et on a commencé à vendre l'application il y a déjà quelques mois, oui.
Pas d'autres questions ? Moi, je voulais justement t'en poser une. C'est que tu nous dis, voilà, je m'adresse à deux typologies de cibles, mais c'est deux typologies de prix différents ou comment vous allez packager vos offres, en fait ?
C'est une très bonne question. On n'est jamais parfait au lancement. On était parti sur deux offres vraiment très différentes. Une offre pour le B2C, donc pour les gens comme vous et moi, assez simple, et un modèle un peu plus abouti pour les pros et les institutions. Et en fait, on se rend compte que le modèle freemium, donc le modèle gratuit sur mobile, est quand même beaucoup plus adapté aux gens comme vous et moi. Donc on va laisser tomber la partie payante sur l'application mobile pour vraiment se concentrer sur la partie B2B et vraiment développer un outil professionnel qui est une réelle plus-value. Exactement.
Aujourd'hui, en fait, en quoi tu estimes justement concernant la technologie blockchain, est-ce que tu observes que le marché il est mûr ou pas du tout ?
Non, moi je le trouve pas mûr du tout. Pour moi, il va nous falloir encore 10 bonnes années avant que vraiment on commence à comprendre et à trouver des choses plus intéressantes qu'aujourd'hui. On est vraiment, c'est comme le début d'Internet, on est au balbutiement et on voit beaucoup de choses et beaucoup de choses sympas. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui restent d'ici 10 ans. Je leur souhaite, mais même nous, on ne sait pas où on sera dans 10 ans. C'est justement pour ça qu'on a développé la blockchain, mais qu'on va se verticaliser sur des secteurs qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus mûrs et où il y aura un réel intérêt à travailler dessus aussi.
Bah écoutez, on peut remercier Fabien pour cette première intervention.